Pimpin Show. Un marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Ah, que la semaine passe vite en bonne compagnie, déjà mardi. Salut, Audrey Pinchot.
Ah oui, écoute, les derniers jours en tellement bonne compagnie.
Oui, mais ben moi j'aime ça le lundi de congé. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le vendredi, là, mais moi le lundi de congé, je sais pas, on dirait que c'est ma
c'est
journée préférée pour avoir congé.
Ben oui, mais c'est parce que t'évites le lundi qui est plate en partant.
Ouais.
Tu sais, le vendredi, c'est une journée qui est le fun de toute manière. C'est à la fin de la semaine. Uh-huh. Le jeudi, tu te permettras pas d'avoir la même attitude qu'un vendredi si t'es off à la fin de la semaine. Tandis que le lundi, t'as comme l'impression que t'as un bonbon. La semaine se poursuit.
Les gens sont plus relâchés le vendredi, tandis que le lundi, les gens sont plus stressés. Je salue les gens qui devront rentrer leur semaine de 5 jours dans une semaine de 4 jours. J'espère que vous en avez profité en fin de semaine. Moi, samedi jusqu'à midi, 2 heures peut-être de l'après-midi, il faisait beau. Après ça, il a plu. Mais pour le reste, là, j'ai pas fait grand-chose, si ce n'est que de faire du tri à la maison. Dans mon garage aussi, j'ai fait du tri. Je pense que c'est des fins de semaine qui servent à ça.
Bien, c'est des fins de semaine de ménage puis de mise à niveau.
Ouais.
Là, sinon, t'es découragé. Mais en même temps, cette pluie forte-là, moi, j'aime ça. La pluie d'entre-deux dégueulasse, ça m'insulte. Mais quand c'est une pluie battante qui rebondit sa maison, le bruit est fort, on dirait que c'est réconfortant.
Quand t'es en sécurité, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis j'ai eu le même réflexe. Puis je sais pas si on s'en est déjà parlé ou j'avais l'intention de t'en parler. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est comme du déjà vu. Mais tu sais, moi, là, quand je fais du camping, c'est rare que je fais du camping.
Ça me semble, tu me sembles pas un coup de camping.
Mais j'y retourne cet été pendant mes semaines de congé. Là, mais j'ai promis ça à mes gars qu'on allait faire de la chasse.
Ah.
Pas de la chasse, mais de la pêche puis du camping. Et tu sais, quand t'es en camping, puis là, t'as ta tente qui est là, tout est bien organisé, t'es pas dans l'humidité, t'es pas dans l'eau, puis là, il y a un orage, puis il pleut. T'es dans ton sleeping, c'est ton oreiller.
Ah, c'est le bonheur, là.
Il te reste juste à profiter du moment présent. Je sais pas, vous autres, ça date de quand, ce moment-là? Mais moi, ça doit faire des décennies que je me suis juste pas couché. Puis écouter la pluie tomber, genre, sur la tente.
Mais j'ai pu le faire en fin de semaine.
J'ai
trouvé ça tellement le fun. On est chanceux, nous autres, parce qu'on a comme un... Notre patio extérieur a comme un toit.
Ouais.
Fait que ça fait en sorte que ça rebondit encore plus parce que c'est un toit de tôle, là. Fait qu'écoute, j'étais assise là, à la petite table, là, à la table extérieure, puis je faisais juste profiter de la petite fraîcheur, puis du bruit. Ah, moi, j'adore ça. Puis j'avais pas le choix de rester positive, même s'il pleuvait, parce qu'en fait, semaine, nous autres, ça a été boîte de déménagement. Là.
Vous êtes là-dedans encore? Là?
Ben écoute, je passe chez le notaire ce soir pour la partie 1. Et mardi prochain pour la partie 2 où je récupère les clés.
OK.
Fait que là, c'est le bordel. Tu sais, je dors à terre en ce moment. Là. On fait du camping chez nous. J'ai plus de base de lit. Yann, c'est le foutoir.
Ouais, mais
maison.
Au moins, vous êtes prêts?
Ben.
Tu sais, moi, j'ai pogné des déménagements là, où mes chums n'avaient pas de boîte de fête. Là, où fallait que je déménage les commodes avec tout le linge dedans, là, incluant la boîte de jouets de madame. Là.
Ouais.
Bon, ça, on riait un peu pour prendre des photos. Là. Mais j'ai eu des chums de même. Là.
Oui. On s'est déniaisés en fin de semaine, puis on a été chanceux parce que hier, mes parents sont débarqués. Puis mes parents sont habitués de déménager. Dans ma petite jeunesse, on a déménagé au-dessus de 12 fois en famille. Ce qui fait qu'on est habitués. Fait que quand ils sont rentrés dans ma maison hier, là, ça y allait au toast. Puis honnêtement, j'ai trouvé ça rassurant parce que le temps que ça nous a pris à la gang, je me disais, hey, si on avait été juste mon chum, là, on serait encore les mains là-dedans. Il reste quelques trucs, évidemment, à vider.
Je pense que le pire, c'est les électroménagers. T'sais, la laveuse là, est plus lourde.
Moi, ça, je trouve que c'est facile. Ça, tu as transport du point A au point B. Moi,
c'est
que
pas
je trouve
toi qui force.
Oui, bien, c'est sûr. Moi, je dis, mais là.
La laveuse, là, quand tu l'amènes du deuxième étage au rez-de-chaussée ou bien du sous-sol au rez-de-chaussée dans des endroits que c'est pas commode, c'est ordinaire. Les anciennes laveuses, toi, t'as pas connu ces laveuses-là. Mais peut-être que si t'as déménagé les trucs de tes grands-parents, tu les as connus, mais j'avais l'impression qu'il y avait une grosse dalle de béton.
T'es lourd.
Dans le bas de la laveuse, c'est épouvantable. Celles qu'on a aujourd'hui sont pas si pires, là, puis je sais pas de combien de poids, mais moi, je me souviens que les anciennes, là, quand tu déménageais à Limoilou dans les escaliers en colimaçon, il fallait que tu lèves ça au bout de tes bras. Ça devait peser, sérieux, ça devait peser...
Une tonne, ça n'a pas de bon sens.
Ça devait peser 100, 125 livres à peu près.
Ouais, j'en doute pas. Aujourd'hui, c'est mieux fait. Si, mettons, sécheuse, t'es capable de transporter ça tout seul, là, si tu te donnes un bon coup. Laveuse, c'est encore très lourd. Les sécheuses sont pas mal plus légères. Mais non, je suis vraiment chanceuse parce que je suis bien entourée. Mais pour moi, ce qui est de la chenoute, mettons, là, c'est le linge. Je trouve ça épouvantable. Moi, il n'y a rien que j'aille plus que faire du lavage dans la vie. Fait que de savoir qu'il faut que je replace mon linge sur des supports, épouvantable. Puis l'autre affaire, c'est la cuisine, la vaisselle.
Ouais, mais le linge, c'est pas compliqué. Tu fous ça dans le char, puis après ça, rendu là-bas, tu tries. Là.
Ah, ben non, mais là, il faut que je trie avant. Parce que là, il y a trop d'affaires, il y a trop de stock.
As-tu jeté des affaires?
Ah! Yann, honnêtement, là, j'aurais pu ouvrir un Dolorama, je me rends compte, avec tout ce que j'avais chez nous. C'est ridicule.
Ça s'explique-tu par un psychologue le sentiment que t'as quand tu te débarrasses d'affaires qui traînent depuis des années chez vous?
Bien sûrement, mais il y a deux gangs assurément, ceux qui trouvent ça jouissif puis ceux à qui ça fait mal.
Fut un temps où j'avais des vieux chars, tu vas me dire, j'ai encore un vieux char, ouais, t'as raison, mais c'était des vieux chars encore pire. Tu sais, j'étais dans le véhicule, puis quand je pilais dans une flaque d'eau avec mon véhicule, ça me revolait d'en face dans le char. Okay?
Oh mon Dieu, mais là, Yann, ça c'était pas sain,
bon,
là.
Puis j'étais tout le temps en train de gosser sur mon char, gosser dans le moteur, essayer de replacer des tuyaux, faire mes affaires moi-même, j'avais pas de mots. Dite scène. Fait que je m'étais pogné au... Je sais pas si c'était au comptoir Emmaüs ou à l'armée du salut, là, mais je m'étais pogné une vraie chienne de mécanicien.
Ouais?
Bon. Ben ça, là, Audrey, je l'ai acheté quand j'avais 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que je l'avais dans mon garde-robe puis que je n'avais pas touché. Je l'ai jeté en fin de semaine. J'aurais pu la donner, mais elle était complètement finie. Là. Il y avait des traces d'huile partout.
T'étais-tu satisfaisant ou t'as commis un petit pincement?
Non, c'est plus satisfaisant parce que là, tu disais, attends un peu, j'ai ça aussi, ça fait longtemps que j'ai pas mis ça. Puis il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit une règle, si tu l'as pas mis pendant un an, tu peux t'en débarrasser.
Ouais. Je trouve ça dur pareil, ça.
Tu sais, moi, je te l'ai dit, j'ai connu des filles, bon, avant la mère de mes enfants, là, j'ai connu des femmes qui s'achetaient des trucs, les mettaient dans le garde-robe, puis au bout de 3 ans, elle disait « Ah, ça, c'est quoi ça? J'avais ça. Hein, je l'ai jamais mis parce que l'étiquette est encore dessus. »
Les portait jamais.
Ça,
ah ouais.
Ne fréquentez jamais les barmaids, là. Ils sont toutes de même.
Mais je me suis rendu compte de ça, par exemple, en fin de semaine. Le linge, là, souvent, j'ai l'impression que je mets les mêmes choses. Je tourne un peu en rond. Mais quand j'ai ouvert tous les bacs été, hiver, hey, pour vrai, là, j'aurais pas assez de place à la maison. Fait qu'il faut vraiment que je donne.
Ouais.
Et c'est comme tous les articles de cuisine. T'sais, nous autres, on est comme deux personnes qui avaient déjà leur trousse qui se sont rassemblées ensemble. Ben trop d'ustensiles, ben trop de poêles. Ben trop... Puis là, tu vois, j'ai Benoît Le Tartre qui est pour le Collège des Hauts Sommets. Eux autres, ils ont une fondation pour faire des trousseaux aux jeunes adolescents qui n'ont pas grand-chose dans la vie. T'sais. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais mettre une couple d'affaires de côté pour pouvoir donner à Benoît, pouvoir donner à cette fondation-là. Comme ça, ben, au moins, ça va servir à quelqu'un puisque nous autres, on en a trop. Fait qu'il y a une partie qui est satisfaisante, mais il y a une partie que je trouve déchirante. Tu sais, il y a des affaires, tu vois, là, que j'ai retrouvé du linge d'adolescente. Là. Une petite veste kaki avec une tête de mort en arrière.
Tu l'as-tu essayé?
Oui, je l'ai essayé, elle me fait encore.
Puis, elle te fait encore.
puis, cette tête, tu sais, cette veste-là, faudrait que je la donne.
Ouais.
Ça n'a pas rapport. Je la mets pas, je la remettrai jamais. Ça n'a aucun rapport.
Mais t'étais chanceuse, pareil, que ça te fasse encore.
Oui, bien, j'ai.
Il y en a une couple qui les aurait mis dans un état dépressif.
Je te dis pas qu'elle fait aussi clean qu'elle faisait. Je te dis pas qu'elle ferme nécessairement, mais elle fait encore. Mais celle-là, tu vois, je voulais pas la donner. T'sais, ça va dans mes souvenirs d'enfance.
Tu sais, moi, j'en ai une à la maison là, qui me dit je m'achète. J'espère qu'elle écoute pas.
Il est quelle heure, là? Ah, 10h09.
Je pense qu'elle a pris comme 7-8 livres. Là. Okay? C'est ce qu'elle m'a dit.
Ah, okay? Okay. Oh, c'est ce qu'elle t'a dit, c'est pas ce que t'as remarqué.
Mais c'est ce qu'elle m'a dit.
Okay.
7-8 livres. Puis là, elle me dit ah, je voudrais aller magasiner, mais je m'achète pas de linge avant d'avoir perdu mon poids.
Ah,
mais là, je me dis, qu'est-ce que tu veux dire? Là? Parce que moi, je me suis pas rendu compte qu'elle avait pris du poids. Là, t'sais. Mais elle me dit...
c'est ce que tous les gars prenaient des notes. Moi, je me suis pas rendu compte qu'elle avait pris du poids.
Je m'achète plus rien. Plus rien avant de perdre mon poids pour rentrer dans mes jeans.
Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai rayé dans la dernière année et demie. Longtemps, puis ça, c'est un problème mental chez les filles. En fait, je dis un problème mental chez les filles. Attention, un problème de l'industrie. Il n'y a pas un magasin où tu vas... où tu portes la même grandeur, OK? Puis je sais qu'il y a une époque où, moi, dans ma tête, il fallait que je rentre dans du small, médium maximum, puis médium, je me sentais grosse, tu comprends? Puis là, je comparais, tu comprends, avec mes chums de filles.
OK, mais vous avez des... Il me semble qu'il y a les mesures. Parce que nous autres, là, c'est petit, moyen, grand, extra grand.
Il y a deux types de mesures. Il y a ceux-là, puis il y a les, mettons, les jeans, là, dépendamment de ce temps quoi.
Mais
là,
les 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez plus ça?
Il y a ça aussi.
OK. Mais pourquoi ils
ça va jusqu'à 14, 15...
Pourquoi ils mettent pas 40 ans, mettons?
Ben non, mais t'as, ans, ça, t'as d'autres mesures.
Tu mets tes jeans-là quand t'as 40 ans.
Ça dépend si c'est des mesures européennes, si c'est des mesures canadiennes. Mais tu sais, t'en as des fois, mettons que ça va être dans les 26, 27, 28. Fait que tu sais, quand tu portes du genre 24, t'es petite en maudine, là. Fait que, en tout cas, c'est vraiment difficile de se retrouver dans tout ça. Puis tu vois, moi, j'avais ce réflexe-là aussi comme la blonde à la maison, là, de dire... Là, je m'achète plus rien ou je vais rentrer dans mon linge. Puis à un moment donné, je me suis dit, hé, que je me rends malheureuse. Achète une grandeur plus grande, sois bien, puis okay. Tant mieux s'ils sont rendus trop grandes au bout d'un moment.
Qu'est-ce que tu fais avec le linge que tu mets plus parce que t'es, ben, parce que t'as pris un peu de poids?
Moi, j'ai le haut cas vraiment facile. Moi, je garde tout parce qu'à un moment donné,
aussi,
ça va me faire à un moment donné. Ouais. J'ai du linge, le mettons, là, dans le large que je sais que je garde parce que je me dis, ben, un moment donné, c'est sûr, ça va me refaire. C'est-tu dans une grossesse? C'est sûr que ça va me refaire à un moment donné. Le small fait plus depuis longtemps. Là. Lui, je l'entrepose juste pour ma pensée magique. Mais je garde ça quand même.
Ça va être pour
même.
Ma fille de 5 ans.
Exact, exact. Mais non, je pense qu'on a de la misère avec ça, effectivement. Puis c'est parce que tu veux pas jeter, parce qu'on a tellement un poids yo-yo, juste dans un mois.
Ça
là.
Coûte cher, là.
Hey, ça a pas de bon sens, comment ça coûte cher.
J'étais allé chez Simons. Ah, c'est vrai, j'ai été faire un tour chez Simons samedi. J'étais allé chez Simons, puis je magasinais pour une paire de jeans.
OK.
Puis là, je regarde. Hé, 200 piastres. Une paire de jeans.
C'est excessivement cher.
200 piastres. Mm-hmm. Je me rappelle pas la marque, là, mais c'était pas une grosse... C'était pas une marque Hugo Boss, mettons. Là. C'est une marque bien ordinaire, 200 piastres.
À la base, c'était dans un magasin qui charge pas mal pour ses morceaux de linge. Là.
Ouais, je sais, mais tu sais, j'aime ça aller dans une place où... Tu sais, Simon, j'aime ça, c'est québécois. Non, c'est...
Absolument.
Mais, je magasine beaucoup mais aussi. Mais 200 piastres pour une paire de jeans, là, non.
Non, ça n'a pas de bon sens. Non. Écoute, puis il y a des marques que par la marque, ça coûte cher, mais il y a des endroits où tu es capable d'avoir ça à 45-50 piastres, une paire de jeans, là, je veux dire. Mais je trouve ça plate parce que, tu sais, après ça, on se demande pourquoi il y a des gens qui vont vouloir magasiner ces Amazon de ce monde, puis aller chercher au sushi in ou payer moins cher parce qu'ils n'ont pas nécessairement le portefeuille. C'est pas gage de qualité, là. Mais quand tu vois une paire de jeans à 200 piastres, je comprendrais quelqu'un qui se dirait « d'art ». Je paierai pas ce montant-là, mais aller chercher moins cher.
Ouais. Ben, j'ai trouvé mon compte. Là. J'ai acheté mes jeans chez l'Abbé.
Ah oui!
Là, tout est en rabais. Là.
Oui, ils ferment, eux autres.
Tu as du 70 à 80 % de rabais, là, ce qui fait en sorte que ta paire de jeans à 200 $ mais elle est rendue à 30-40 $ maintenant. Ouais. C'est nice, là.
Mais oui, ça fait une méchante différence. Là. Ben, le pire, c'est qu'allez vous gâter là, sur le linge, mais sur toutes sortes d'affaires là, chez l'Abbé. Tout est en liquidation en ce moment.
Oui, puis tu sais, la mère de mes gars, elle, ce qu'elle fait pour mes gars... C'est là, exemple, là, le linge d'hiver est en train de. Est liquidé. Là.
Ouais.
Fait que là, elle achète le linge d'hiver pour l'année prochaine.
C'est intelligent, ça. C'est vrai.
Ah, quand change de l'ai, là.
Mon chum est de même aussi, là, très prévoyant, ces affaires-là. Là. Quand tu peux sauver de l'argent, il est allumé. Là.
Mais elle achète. Elle achète les fins de saison pour la saison d'après. Ouais. Puis mes gars sont habillés, là. Tu dirais pas, ah, ben ça, c'est l'année passée.
Non,
ils sont tout le temps, ben habillés. Fait que je suis content, mais en même temps, ça me coûte beaucoup moins cher parce qu'elle a fait ça. Moi, j'ai pas le réflexe de faire ça.
Ben, c'est de l'économie, c'est d'y penser. Le pire, c'est que moi, souvent, à ce temps-ci de l'année, je vais acheter mes bottes d'automne parce qu'ils passent de comme 120$ à 45$, tu sais. Mais c'est ridicule, là, quand tu y penses, parce qu'on préfère payer plein prix. On se laisse prendre là-dedans, là.
Okay, salut Marceau, même le linge d'homme, il y a des différences dans les T-shirts. J'ai du large et du XX large. Pourtant, j'ai donné du XX large quand j'ai perdu mon poids, mais je me suis racheté du XX large selon la marque.
C'est fou, raide. Ben, c'est vrai que c'est probablement un problème pour les gars aussi. Là,
les Italiens sont petits, là. Sont chétifs. Là.
Ben, les Italiens, les Japonais aussi, quand tu as des chandails ou des vêtements qui viennent de là-bas, c'est excessivement petit. Mon chum s'est commandé un super beau manteau, OK? Vraiment sharp. Puis c'est un manteau qui venait de la Chine, là. Je sais pas exactement d'où, puis je me suis même plus le magasin, OK? Le point, c'est que quand il est arrivé à la maison, mon chum avait pris un large en pensant qu'il allait avoir un peu de lousse, qu'il allait pouvoir mettre un coton ouaté. Un petit. Probablement un X small. Je pense son poignet a de la misère à rentrer dans la manche. Ouais, on était mort de rire.
Mais il y a des tailles. Nous autres, il faut prendre les tailles américaines.
Bien, c'est ça. Mané, tu saisis, mais ça joue dans la tête aussi. Bref, fait que je boucler la boucle, je comprends un peu ce que ta madame à maison a peut vivre par rapport au fait qu'elle sait pas si elle doit se racheter du linge. C'est toute qu'une affaire, ça.
Marty dit Old Navy pour les jeans, pour hommes, ça
c'est
le
vrai,
fait.
Ça. Mm-hmm.
Bon prix. T'as ici aussi, là, l'autre jour, j'ai été me chercher une paire de jeans.
Winners.
Winners.
Ben oui, Winners, il y a des trouvailles et ça.
Les Wrangler.
C'est épouvantable. T'as plein de marques.
Les jeans Wrangler. Bon, c'est sûr que si tu mets ça l'été, tu vas suer de la poche longtemps. Là. Mais des Wrangler, l'hiver, là, c'est parfait. Là. Ouais. C'est des vêtements de travail, des jeans de travail. Ouais, ouais. Là. Ça perce pas. C'est pas compliqué. C'est tellement épais que ça perce pas. Là.
Pour la moto, c'est pas pire aussi. Là. Mais le Winners, ce qui est le fun, c'est que c'est tous les restes de magasins. Fait que tu trouves du beau stock. Faut que t'aies le temps, par exemple. Si t'es impatient, dans la vie, va pas chez Winners. Faut que tu prennes le temps de magasiner. T'sais, c'est pas comme quand tu vas quelque part puis tout est comme super bien classé puis tu as les marques puis c'est pas ça là. C'est t'as les grandeurs puis fouille.
J'avais le goût, j'étais aux Galeries de la Capitale en fin de semaine, samedi. J'avais le goût, j'étais tout seul, je revenais de m'entraîner puis j'avais une rage de sucre. Mm. Puis je passais à côté, tu sais, de l'appareil qu'ils ont inventé là dans les dernières années. Je voyais pas ça avant. Là. Avant pour avoir ça, fallait que j'aille à Expo Québec là. La barbe à papa.
Oui.
Tu passes ta carte de crédit, là. Puis là, tu choisis ton truc de barbe à papa. Il devait avoir, je sais pas comment ça se vend, ces machines-là, là, mais il devait avoir 40 personnes, incluant des enfants puis des parents qui attendaient pour se faire faire sa barbe à papa.
Ben oui.
Comment ça coûte, ça?
Ah,
genre,
mais ça t'a été pointable.
Au cost, là. 3 cents?
C'est drôle parce
ils
que...
Ils vendent ça 5 piastres?
Ben oui. Puis tu dis ça, mais à la pyramide, il y a ça aussi. Il y a une section avec des machines indépendantes qui te font toutes sortes d'affaires, là. Puis tu peux juste aller faire la file, passer ta carte, puis pas besoin de personne, c'est un robot qui gère la patente, là.
Qu'est-ce qu'il fait?
Mais c'est sûr qu'il... Je pense qu'il fait des cornets. Et je pense qu'il fait de la barbe à papa aussi. C'est full coloré. Là. C'est vraiment dans le fond de la pyramide. Moi, j'avais pas vu ça. Et c'est récemment que je suis allée. Ça devait faire des mois que je n'étais pas passée par là.
Ouais.
Puis écoute, ça fait toutes sortes de patentes. Là. Ça a l'air de faire des breuvages et compagnie.
Parce que là, je me suis dit, hey, il me semble que j'ai le goût de bouffer une barbe à papa, mais j'ai pas pensé à mon affaire. Jamais tu me verras dans le hall en train de marcher tout seul.
Avec une barbe à papa!
Un gars dans la quarantaine qui revient de s'entraîner, les cheveux un peu croches.
Ouais.
Il sort sa langue pour lucher la barbe à papa.
Le clown triste, là, je me dis. Ouais. En partant, tu manges pas ça de même, Yann. Si tu manges ça de même, t'as une déficience mentale.
Tu manges ça comment?
Ben voyons, t'arraches tes bouts de barbe à papa et t'es mets dans ta bouche, là.
Tu peux pas y manger comme un cornet.
Mais non, voyons, si tu fais là, tu vas tout te beurrer. C'est là que t'as l'air tata.
Ah, merci. Mais bref, donc. Je l'ai pas acheté, il y avait trop de monde. Mais, tu sais, à l'expo, on achetait aussi des pommes de tir. Tu te souviens-tu de ça?
Ah, mais oui, ça, c'est bon.
Je suis pas capable, moi.
Ah, oh, moi, j'aime ça.
J'ai jamais compris les gens qui mangeaient des pommes de tir.
Oh. C'est, ça beurre. C'est dégueulasse comment ça te beurre. Mais c'est bon. Là.
Quand j'allais à Ronde, à Montréal,
oui.
Là, il y en a de plus en plus à Québec, là, mais les fameuses queues de castor. Là.
Ah.
Queues de castor au bleuet. Là.
Ah, au bleuet, t'es bien plate.
Ah, c'est mal.
Choco-banane.
Non, non. Ça, c'était, hey. Ça, c'était déjeuner, ça.
Non.
Mais queues de castor au bleuet, là, à Montréal, là, c'était gras. Ça goûtait le beurre avec des bleuets. C'était bon, ça goûtait le ciel.
Honnêtement, je pourrais tuer pour une queue de castor. Là.
Tu pourrais tuer pour une queue de castor.
Non, mais moi, je ne vis que pour les queues de castor. Ça, là... Oh! Tu sais, quand je travaillais au McDo, en soirée, ben tard, quand il n'y avait plus de monde, là, on prenait des pains à Big Mac qu'on mettait dans la friteuse.
Pain à Big Mac, friteuse?
Ça goûtait un peu la queue de castor.
Ah, oh, ouais?
Ouais. Bon, là, tu peux plus faire ça, t'es plus un mec copain, là, mais c'était hot. Mais écoute, queue de castor, au lancement aux Galeries de la Capitale, c'était la semaine passée?
Ouais.
J'en ai pris une choco-banane. J'ai revécu un moment, là. Et que c'est salissant, mais que c'est bon, ça n'a pas de bon sens.
Ouais, oh! Ouais, ouais. Mais je sais pas, peut-être des trucs... C'est des trucs qui nous rappellent notre enfance. Moi, la barbe à papa, j'en mangeais beaucoup quand j'étais jeune. Puis là, ben en vieillissant, t'as de l'air un peu tata si tu manges ça tout seul. Quand mes tu sais, mon petit Isaac, lui, il n'avait pris une aux Galeries, là. Puis tu sais, j'avais pris une coupe de pincée. Mais... ça doit être rentable, ces machines-là. Ils ont inventé aussi des machines à pizza.
Ah, ben oui, mais ça, il y en a une à Neuville.
Il y en a une à Val-Bélair. C'est dans un stationnement par rapport à un commerce. Genre, ouais. Quelqu'un qui fabrique des dentiers. Puis dans son stationnement, dehors, il y a une machine à pizza.
Je trouve ça malade.
Je sais pas si ça marche, là.
Ben, ça marche super bien. Il y a eu un buzz. Quand tout le monde s'est mis à en parler puis que ça a été installé, il y a eu un gros buzz. Les gens l'utilisaient vraiment beaucoup. Moi, j'ai remarqué quand j'arrête de gazer à Neuville que la machine a l'air un peu moins utilisée, là, même qu'elle a l'air pétée une fois sur deux. Là, souvent, elle est comme fermée. Là. Mais je sais qu'il y a eu un gros boom quand ça a commencé. Je sais pas, l'utilisez-vous encore? 88-971-1021. Moi, tu vois, je sais que mon chum était allé en chercher une à un moment donné. Moi, je l'ai jamais testé moi-même, là. Tu sais, de comme faire la commande de cette machine, puis de payer, là. J'aimerais ça, par exemple. Tu me donnes quasiment envie de faire ça ce soir. Je vais m'arrêter à Neuville.
Tu vois?
Je me rends compte que je l'ai jamais essayé. Mais je sais pas s'ils font beaucoup d'argent avec ça. Au départ, c'est sûr que oui. Parce que ça, c'est une curiosité.
Mais faut que tu y aies à tous les jours là, pour remettre les pizzas en place. Ça, c'est des pizzas préfaites.
Oui. Ben oui, faut absolument. Oui, t'as un préposé qui va remplir la porte, puis tout, c'est sûr. Là, t'as pas le choix. Puis comment tu fais pour que ça reste bon aussi? Je me demandais ça.
Il y a une machine à fromage nacho dans les buffets des continents.
Ah!
Hein? Oh, ouais.
Tabarnouche. Je me rends compte qu'on est plus technologique que je pensais.
Ouais. Mais dans le quartier Saint-Sauveur, ça n'existe plus, là. Mais c'était sur Saint-Vallier. Puis là, on sort un peu de la bouffe. T'avais une machine distributrice de films.
Okay.
C'était capoté. Je te parle des années...
Mettons, comme un centre Vidéotron, mettons.
Début 90, c'était comme un... Ouais, c'était un club vidéo.
Club Vidéotron, ouais.
Mais il n'y avait pas d'employés. C'était juste des machines distributrices de films.
Non, ça, j'ai pas connu ça, vois-tu?
Puis c'était complètement capoté parce que nous autres, on avait compris que si tu tapais à la bonne place, la machine te donnait des crédits.
Arrête!
Ah oui! C'est capoté!
C'est bien drôle, voyons donc!
Tu pouvais avoir genre 2-3 000 piastres de crédit, mais nous autres, on savait que si on montait ça à 2-3 000 piastres, là, le gérant de la place, mettons, là, il voit, tu sais, les gens qui ont des crédits, mettons, qui ont mis 20 piastres, qui ont mis 30 piastres pour avoir des crédits. Là, tout d'un coup, il voit qu'il y en a qu'un qui a 2 000 de crédit, il va comparer avec l'argent qui était rentré dans la machine, puis il va dire ça fait pas. Mais nous autres, on frappait sa machine.
Pour avoir des crédits.
Ouais, c'était sur Saint-Vallier, c'était dans l'ancien quartier chinois.
Moi, je faisais ça, c'est ma chaîne à bonbons. Pour qu'il y en ait qui coule, sans que j'aille à payer.
Les jeunes le font encore aujourd'hui.
Hey, j'en doute pas en tout.
J'étais à l'aréna au centre Castel, puis c'était mon plus vieux qui jouait, puis mon plus jeune s'est trouvé des amis de son école, puis à un moment donné, je le cherchais. Puis il était trois boys autour des machines à bonbons, puis ils essayaient, tu sais, de shaker la petite barre, là.
Ben oui.
Pour tourner ton 25 cents. Ouais. Ils essayaient de shaker ça, puis là, eux autres, dans leur tête, ils avaient inventé une technique pour... qu'il y a un bonbon qui tombe.
Hey, c'est tout le temps ça. Chaque génération pense qu'ils ont inventé de quoi. Pourtant, ça se fait depuis toujours.
Les gars, ça fait combien de temps vous êtes là? Ça une demi-heure.
Ah, c'est drôle.
Fait que là, je leur ai donné comme une pièce. Je disais, allez faire changer votre pièce au casse-croûte, puis ils vont vous donner des 25 cents.
Ben, ça passe le temps.
Mais oui, ça passe le temps. C'était le vidéo flex. Merci beaucoup. Il y a des gens qui ont reconnu la place où j'allais. Hey, j'étais pas vieux.
C'est drôle.
On louait nos premiers films porno, on les louait là.
Arrête, toi, dans ma chaîne, ils mettaient des films porno.
Ben oui.
Oui, mais fallait que tu prouves comment que t'avais l'âge.
Ben, tu le prouvais pas, t'avais une carte.
Aïe, aïe.
Ouais, puis souvent, c'était les parents qui pouvaient avoir, qui te prêtaient leur carte. Fait que nécessairement,
il y avait adulte, personne pour vérifier. T'avais accès.
Mais c'était le vidéo flex, c'était 24 heures sur 24.
Arrête!
Ouais.
Pis... Ah, j'aimerais ça que ça revienne, ça.
Ouais, c'était capoté. Tu rentrais avec ta carte, t'ouvrais la porte, puis là, t'avais 4-5 machines, puis là, tu regardais les films qui étaient disponibles. Puis tu cliquais le E3, puis là, après ça, la machine allait chercher le E3, puis t'avais ton film. Puis tu devais aller les reporter en arrière d'une porte, là, dans l'embrasure d'une porte. Là.
C'est donc bien malade.
Ah, c'était vraiment
malade. Moi, j'ai pas vécu à bonne époque. Là.
Tu sais quoi?
Quoi?
T'as entièrement raison.
Ah ouais?
T'as entièrement raison.
Le pire, c'est que souvent...
Je sonne bonhomme, là, mais je regarde beaucoup les années 60. Je regarde beaucoup les années 70 où il y a plein de choses qui ont débuté dans ce temps-là. Puis oui, c'est vrai, il faisait bon vivre. Là. Mais les années 80-90 où tout était permis. Là,
J'aurais vraiment aimé ça.
Dans les années 80, là, tu prenais une petite bière, puis là, le policier, il te pognait dans ton char, puis il disait, là, tu te stationnes là, puis après ça, il allait te porter chez vous, tu sais. Aujourd'hui, tu verrais pas ça. Mm.
Tu sais, je sais pas si tu as vu passer dans le journal ce matin, il y a une étude qui est parue où on dit que près de la moitié des jeunes auraient préféré un monde sans Internet. Mais je pense que des fois, ça fait partie de cette réflexion-là de « Hey, je pense que je suis pas née dans la bonne génération ». J'aurais aimé ça vivre à un moment là, où il n'y avait pas ces distractions-là. Puis pas ce stress-là. Puis pas me sentir... qu'il n'y ait pas de pression extérieure par rapport à tout, tu sais. J'aurais vraiment... En même temps, je pense que c'est une génération qui avait ses problèmes aussi. Là.
Les gens t'appelaient chez vous.
Ouais.
Puis t'arrivais chez vous, tu disais à ta mère, c'est quelqu'un qui m'a appelé. Ouais, c'est Patrick qui t'a appelé tantôt.
Ouais. Ça, je l'ai vécu un tout petit peu plus jeune, là, où on allait encore cogner aux portes pour jouer avec les amis. Là. C'était pas des affaires de texter. Là.
Ça se fait encore beaucoup en Beauce.
Ben, tant mieux.
Ouais.
Moi, j'ai eu un téléphone cellulaire vraiment tard comparé à la majorité des gens.
Tu sais, il y avait des 14-17, donc c'était des bars sans alcool pour les jeunes.
Mais c'est malade, ça!
C'était complètement fou.
Pourquoi personne ne repart une business de même? Je veux dire, c'était écœurant.
On allait là jusqu'à minuit, 1h. C'était dans le secteur de Beauport, proche de la Canardière.
Mm.
C'était dans le... Ça s'appelait-tu le Graff? Peut-être que les auditeurs se souviennent. 418-971-1021. Mais ça s'appelait le Graff. Puis on partait, on s'organisait là, à la maison là, avec des chums. Là, on se peignait les cheveux, on se mettait du linge, on se lavait le cul. Puis let's go, on s'en allait là. Il y avait du jus que tu pouvais acheter, il y avait des bouteilles d'eau.
L'alcool,
tu pouvais jouer au billard, il y avait une piste de danse, il y avait des sofas.
Oh mon Dieu, ben une genre de maison des jeunes. Nous, on avait ça, où j'habitais, une maison des jeunes, puis ça, j'y allais de temps en temps. Mais tu sais, en même temps, la maison des jeunes, c'est plate, mais ça avait la réputation d'être pour les pokés. Ça serait cool qu'il y ait vraiment une place où c'est vraiment comme une discothèque, un bar sans alcool, surtout qu'il y a tellement de mocktails de fun aujourd'hui,
où
les jeunes pourraient juste aller comme fêter, puis... Ça me semble ça serait cool.
Ouais,
je t'en parle, j'étais énervée, c'est même plus mon
âge. Il y avait beaucoup de... C'était-tu Madame Thérèse? Les gens, aidez-moi, c'était en Hauteville, c'était proche de la rue Cartier. C'était une dame qui t'accueillait chez elle. Puis, moi, je l'ai connue des dernières années, fait que des fois, elle était couchée, puis il y avait comme une employée là, qui s'occupait de nous donner de la bière. Là. Mais c'était dans son logement, puis on allait prendre une bière, là, avec des gens qui étaient dans les autres bars, qui ne voulaient pas finir la soirée, puis qui allaient prendre une bière dans ce logement-là. Ouais, je pense que c'est Madame Thérèse.
Elle était cool, Madame Thérèse.
Elle était vraiment cool. Je pense qu'elle est décédée aujourd'hui, mais c'était le bon temps.
Aïe, aïe. Ah non, mais écoute, le pire, c'est que probablement que, mais que je sois à bout d'âge, je vais regarder ma vie puis ce qu'on avait. Puis je veux dire, il y a une accessibilité puis une facilité aussi avec les internets et compagnie. Là. Je veux dire, c'est facile de chialer puis d'admirer le passé puis cette nostalgie-là. C'est à ça que ça sert, la nostalgie.
Beauport, il y avait la Roulettec. Pas loin de la Canardière, il y avait la Roulettec. Fait que c'était un bar où il y avait comme un circuit, là, comme une patinoire d'aréna, mais c'était en plancher de bois franc. Puis t'arrivais avec tes
patins voiliers.
Tu louais les vieux patins, puis t'embarquais là-dessus, puis tu passais ton après-midi à rouler, à patiner.
J'en ai fait juste une fois.
Puis après ça, t'avais une place pour danser slow.
Ah, oh, mon Dieu! Tu sais que j'ai jamais vécu de premier slow, hein?
Non?
Non. C'est quelque chose qui va manquer à ma vie.
C'est cheap en sacrament.
Ben non, mais là, attends, là, j'ai jamais vécu de premier slow adolescente. Tu sais, je veux dire, à l'école, je me souviens, moi, j'étais celle qui regardait les premiers slow des premiers petits couples. Moi, il n'y a personne qui voulait danser. Il n'y a personne qui voulait danser de slow avec moi à l'époque.
Il y avait le graph, il y a eu aussi le feeling, le 13-17 à Destimoville. Merci beaucoup. Puis c'est ça, c'était Madame Thérèse.
Bon, la salue.
Elle est morte.
Elle a fait. Oh.
Elle est morte dans les dernières années, elle était tout le temps dans sa chambre. Mais elle accueillait quand même des gens chez elle. Elle s'est fait arrêter comme 150 fois. Là.
Arrête!
Oui! Des descentes.
Non, mais ça, je trouve ça cool. Tu sais, bon, pas à ce niveau-là, on s'entend, là, mais moi, mes parents, tu vois, c'était ceux qui accueillaient les jeunes qui voulaient essayer des affaires. Tu sais, mes parents préféraient garder un contrôle sur moi de cette façon-là. Fait que moi, j'étais comme la maison cool avec les parents cool où, justement, la gang de chums débarquait, tu sais. Je suis sûre que pour eux, c'est des bons souvenirs. Là. Ils doivent parler de mes parents de cette façon-là. Mais...
C'était elle, Mme Thérèse.
Oh, mon Dieu Seigneur, OK, il y a eu des articles sur elle.
Elle est née en... Elle s'appelait Thérèse Drago. Elle est née en 1928.
Mon doux Seigneur.
Puis elle est décédée en 2016. Fait que c'est quoi? C'est 88 ans? Ouais, c'est ça, 88 ans.
Dans mon calme.
La dame qui a été propriétaire du bar La Grande Hermine sur Cartier est morte doucement dans son sommeil dans son logement du boulevard René Lévesque où elle a tenu aussi pendant plusieurs années un bar clandestin. Madame Thérèse, comme les gens l'appelaient, était une femme généreuse et ouverte. Il y a un documentaire qui était fait sur elle.
C'est bien drôle, voyons donc. J'avais jamais entendu parler d'elle.
On la considère comme une genre de travailleuse sociale. Ce que je retiens le plus d'elle, c'est son amour pour les autres et le don de soi. C'est un personnage mythique qui a aussi inspiré la pièce de théâtre Madame G de Maxime Beauregard, blablabla. C'était une femme aussi pleine de culture qui aimait la musique, jouait du piano et menait sa petite affaire en aidant beaucoup de filles pour qu'elles ne soient pas dans la rue.
Oh, wow, quand
ça,
même,
c'est une portion d'elle que je ne connaissais pas.
C'est beau, ça, par exemple.
Ouais, moi, elle m'appelait Tinum.
Oh, arrête donc, oui.
Madame Thérèse.
Crime, ben, écoute, je n'ai jamais eu de Madame Thérèse dans ma vie.
Quelqu'un qui dit, on faisait des niaiseries dans les années 80 puis il n'y avait pas de preuves vidéo.
Mais ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, aujourd'hui, tout est filmé, tout est enregistré. C'est pas la même game, je sais pas. Vraiment, des fois, je me dis, j'aurais aimé vivre à une autre époque.
Ouais, puis aujourd'hui, tu sais, tu participes à une manifestation où tu veux pitcher des cocktails Molotov, puis tu peux devenir quand même député d'un endroit.
Oh, Yannick!
C'est pas si pire aujourd'hui.
Garde ça pour l'heure du midi, là. J'ai besoin de douceur ce matin, là.
Non, non, ça me prenait une transition qui avait du bon sens. Dans les prochaines secondes, on vous pousse du mal à jupe avec Radiologie sur les zones de boulevard. Sinon, notre prochain invité?
On va jaser avec la directrice générale de SAPSA, qui est un organisme qui développe puis qui offre des soins puis des services adaptés aux personnes plus vulnérables qui trouvent, bon, difficilement leur place dans le système. On veut parler, en fait, de la situation des drogues sur le territoire de la Ville de Québec. Je veux dire, il y a des perquisitions chaque semaine, des gens qui décèdent de drogue coupée. Puis eux autres, ben, ils font du dépistage, de la clinique de proximité, prévention des surdoses, clinique de consommation supervisée aussi. Donc, ils sont très, très bien placés pour jaser de la situation dans la ville de Québec. Fait qu'on parle de drogue ce matin.
Merci beaucoup. S'il y a quoi que ce soit, les amis, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021. Merci d'être nos yeux, nos oreilles. Les news de Max s'en viennent aussi dans pas long. C'est 10 degrés sur Québec actuellement. Est-ce que ça va se réchauffer? Allons voir ce qu'on nous annonce comme météo. Maximum de 15, donc ça pourrait se réchauffer cet après-midi. Partiellement nuageux pour ce soir. Peut-être un peu moins de pluie là, actuellement sur le territoire. Il y a certains endroits où il pleut ou d'autres pas pantoute. Mais si c'est pas le cas, ben, la pluie va s'en venir dans les prochaines secondes, les prochaines minutes. Pour ce qui est de demain, mercredi, ce sera nuageux avec un 40% de probabilité d'averse en après-midi. Un maximum de 18 degrés. Jeudi, ce sera nuageux, un maximum de 14. Et vendredi, ce serait de la pluie intermittente avec un maximum de 12. C'est... bon, on revient à 3 jours de congé, là. Je regarde le topo. Je pense que le soleil pourrait revenir dimanche prochain, 25 mai.
Re-salut! C'est pas encourageant, ton affaire!
Mais la bonne nouvelle, c'est que la météo se trompe souvent. Fait que, ouais. Tu sais, des fois, on peut laisser présager que ça va arriver peut-être demain, après-demain.
Je t'en manque de lumière.
On vit d'espoir! 418-971-1021, 418-971-1021. Sur la route, comment ça se passe?
Si vous êtes sur Char et Ouest en ce moment, à la hauteur de Duplessis, la voie de droite est partiellement entravée. C'est une panne. Le remorquage est en cours. Pour le reste, ça roule super bien. Évidemment, quoi que ce soit d'autre, vous ne vous gênez pas, ça passe par le texto 971-102.
On a le plaisir d'accueillir en studio Jimena Ruiz Harago, qui est directrice générale de SAPSA. Bonjour, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va bien et toi?
Ça va très bien. Nouvellement directrice de SAPSA, donc félicitations.
Oui. Merci beaucoup.
Pour les gens qui ne connaissent pas la clinique SAPSA, qu'est-ce que c'est exactement?
Oui, donc SAPSA, ça veut dire service à bas seuil d'accessibilité. Donc, on a autant une clinique qui offre des soins par des infirmières IPS pour des personnes qui n'ont pas accès nécessairement au réseau, donc des personnes qui sont désaffiliées du réseau. Ouais. Et ça peut être des personnes qui sont soit en situation d'itinérance, ça peut être des personnes qui n'ont pas de statut. Donc, nous, on ne pose pas vraiment de questions, on ne prend pas la RAMQ et on leur offre des soins de santé, là, ce qui aide également à dégager un peu là, l'achalandage dans les urgences. On a également des volets de service, donc un service de consommation supervisée qu'on a une co-gestion avec le CIUS, la capitale nationale. Okay. Et on a également une vérification de substances. Là. Donc, on a une vanne qui se promène beaucoup dans les festivals, qui va dans des endroits où les personnes sont susceptibles d'avoir des substances. Donc, on peut les vérifier pour qu'ils sachent c'est quoi qu'il y a dans leurs substances. Et une clinique mobile également. Là. Donc, on se promène dans des endroits là, pour offrir nos services.
Et maintenant, quand tu dis on a des infirmières praticiennes, c'est des IPS, c'est des infirmières praticiennes.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est pas des docteurs, mais ils sont en mesure de t'accueillir dans leur cabinet, puis t'évaluer, puis prescrire des médicaments.
Oui, c'est ça. Donc, souvent, il va y avoir peu de choses que les infirmières praticiennes ne peuvent pas faire comparativement à un médecin de famille. Il y a quand même des choses qu'elles peuvent pas faire. Mais, par exemple, sur 5000 visites qu'on va avoir, bien, à peu près 2% de ceux-là qu'on va référer là, aux urgences. Là. Donc, elles sont capables de faire beaucoup de choses. Là.
Vous accueillez combien de personnes à SAPSA par année? Vous aidez combien de personnes?
Bien, c'est sûr que ça dépend. Donc, à la clinique, en tant que telle, on a près de 5000 rendez-vous ou 100 rendez-vous.
Wow.
Sinon, le service de consommation supervisée, là, on va dépasser les 30 000 visites, ce qui est quand même
30
beaucoup.
30 000?
Oui, donc on va chercher quand même beaucoup de personnes là, dans nos différents volets de services.
OK. On ne les voit pas, ces gens-là, nous. Hein? Mais vous autres, vous les voyez passer à tous les
jours.
Oui,
c'est ça. C'est sûr que nous, on les voit. Là, puis il y a plusieurs personnes qui vont... avoir accès à plus qu'un volet de service. Donc, quelqu'un qui va aller au service de consommation supervisée, on a quand même une trajectoire qui fait en sorte que par la suite, cette personne-là, elle peut avoir des soins de santé qui sont offerts dans la clinique. Là. Donc, on a quand même plusieurs personnes là, qui utilisent plusieurs volets de SAPSA.
Quand on parle de drogue, est-ce que les gens sont gênés? Là, tu me dis 30 000 personnes, mon réflexe, c'est de dire non, là, mais les gens sont-ils gênés de venir vous voir? Parce que moi, je me souviens que j'ai vu votre van se promener à Cigale l'été passé, puis c'est là que, mon Dieu, j'ai pris conscience de ce que faisait SAPSA dans son entièreté. Mais est-ce que les gens sont gênés de venir vers vous ou pas tant, de plus en plus, c'est connu puis ça prend place?
Bien, de plus en plus, les gens sont à l'aise, mais c'est sûr que c'était un festival, il y a quelqu'un qui vient de voir, hey, veux-tu faire vérifier ta substance? Tu le sais, qu'est-ce que tu possèdes? Tu n'es pas supposé le posséder sur toi. Donc, il y a comme peut-être une petite gêne, mais il y a beaucoup d'éducation qui est faite par nos intervenants. On leur explique, non, tu sais, on a vraiment une exemption de Santé Canada pour pouvoir vérifier ta substance. Donc, ça prend quelques minutes, puis par la suite, tu peux savoir ce que tu consommes réellement. Donc, on fait beaucoup d'éducation, là, entre autres, dans les festivals.
Puis ça, les services de police, sont-tu conscients de ça? Parce que, mettons que je suis un policier qui veut faire respecter là, la loi et l'ordre à la lettre, je me tiens à côté de la clinique SAPSA, puis tout le monde... Quiconque veut rentrer ou sortir, je le fouille, là.
Bien, on parle beaucoup. On a vraiment un canal de communication qui est très ouvert avec le service de police. Ouais. Donc,
mais ils sont conscients. Ils sont conscients de l'importance que vous avez dans la société.
Ils vont pas se tenir justement à côté du service de conso pour arrêter n'importe qui passe, là, mais c'est sûr que ça reste leur devoir là, de s'assurer qu'il n'y a pas de trafic qui se fait et tout. Là, donc, ils vont quand même être conscients, mais on a un bon canal de communication, puis le but, c'est pas qu'ils arrêtent quelqu'un là, qui sort de SAPSA. Là, ça, serait trop...
ça changerait complètement votre mission. Là.
la dope à Québec, qu'est-ce qui circule comme dope à Québec présentement?
En ce moment, c'est vraiment inquiétant parce que y a beaucoup de... il y a de la freebase, la cocaïne et tout, mais on retrouve de plus en plus de fentanyl, là, ce qui est quand même inquiétant. Ouais. Là.
Ça, c'est un médicament qui est plus puissant que l'héroïne.
Oui, c'est ça. C'est vraiment plus puissant. Donc, souvent, on va le mélanger avec la cocaïne parce que ça coûte moins cher. Donc, c'est plus facile à transporter. Mm. C'est vraiment une question de business au final, mais... c'est vraiment plus dangereux.
C'est triste
là.
Parce que c'est il y a une semaine et demie, deux semaines qu'on voyait dans l'actualité un père de 32 ans,
ouais.
32 ans, mon Dieu, du côté de Montréal, par exemple, ouais. Là, dans le sud de Montréal, qui est décédé parce qu'il consommait de la cocaïne qui était coupée justement avec du fentanyl. Là.
Ouais, c'est
fou, là. Un père de deux enfants, 32 ans, tu commences ta vie.
Oui. Ouais. Parle-moi, détermine-moi c'est quoi cette drogue-là. Tu sais, moi, je connais pas les drogues, puis je pense que les auditeurs sont pas des grands connaisseurs de drogue non plus. Tu sais, tu me parles de freebase.
Ouais.
C'est quoi exactement la freebase?
Quand on parle justement de ça, souvent, on va parler de cocaïne, on va parler de tout ce qui est héroïne, on va parler... Donc, il y a plusieurs sortes de drogues. Là. Il y en a qui s'inhalent. Il y a des drogues qui vont être consommées par... plus s'injecter. Donc, il y a différents types de drogues, en effet. Le problème en ce moment, c'est qu'on ne le sait pas tout le temps, c'est quoi qu'il y a dans la drogue qu'on vient, qu'on vient consommer.
Parce que c'est juste qu'en tant que parents, ils sont encore trop jeunes, là, 12 ans puis 9 ans. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que je serais capable de reconnaître toutes les drogues
qui
circulent. C'est sûr que c'est certain que si je le vois avec une cuillère puis de la poudre dedans puis un lighter, d'après moi, je vais avoir un bon indicatif.
T'as
que...
une petite idée.
Il est loin de Fortnite, OK? mais c'est ça. Donc, la freebase, le crack, est-ce que ça circule à Québec?
C'est ça. Donc, le crack, souvent, ça va être un peu de la freebase aussi. Là.
Okay.
Donc, oui, ça circule. Mais c'est normal qu'on ne sache pas c'est de quoi toutes les drogues. Là, on n'est pas des... mais comme vous, les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas des experts. Et c'est pour ça que c'est important de, justement, des organismes comme nous, on peut vous informer.
Ouais. Fait que là, juste que je comprenne bien, le principe de freebase, c'est tout ce qui se promène.
Non, c'est ça. C'est vraiment un type de drogue qu'on vient couper. Là,
couper, donc, OK. Fait que c'est le mélange, finalement,
gros,
de drogue.
Oui, en gros, c'est ça. Là. Bon, je ne suis pas la chimiste ici, là, mais en effet, là, c'est un type de drogue. Quand les personnes, par exemple, arrivent au service de consommation, nous, on questionne à savoir c'est quoi tu viens consommer aujourd'hui. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est capable d'avoir une idée là, de qu'est-ce qui est le plus consommé ce temps-ci.
Avez-vous des chiffres par rapport à l'augmentation, mettons, de la consommation de drogue dans la capitale nationale?
Par rapport à l'augmentation, c'est sûr que le fait qu'on voit qu'il y a plus en plus de personnes qui viennent au service de conso, ça nous donne une bonne idée qu'il y a plus en plus de personnes qui sont conscientisées aussi de ne pas consommer tout seul, ce qui est une bonne chose. Là, mais oui, on voit aussi une augmentation des surdoses environ de 33 % là, donc ça va en augmentant quand même là, les surdoses.
Quand même beaucoup, 33
% ouais.
Ouais, c'est 3 sur 10, là.
Ah, c'est capoté. Ça me fait vraiment capoter.
Est-ce que... parce que le crack, t'as parlé du crack tout à l'heure. Est-ce que c'est encore vrai? Moi, quand j'étais plus jeune, je dirais vingtaine, trentaine, on a commencé... mettons 20 ans, on a commencé à entendre parler de ça, mais c'était vraiment aux États-Unis.
Ouais.
Puis on nous disait qu'il s'agit d'une seule bouffée de ça, puis tu peux rester accro jusqu'à la fin de tes jours. C'est encore le cas aujourd'hui?
Bien, c'est sûr que ça dépend aussi de la personne. Est-ce qu'elle a tendance à comme avoir des dépendances plus facilement ou pas? Là? Donc, le danger avec ça, c'est que souvent les personnes qui vont consommer une fois, c'est des consommateurs de fin de semaine, des consommateurs, ils vont croire qu'ils ont le contrôle. Ils vont se dire, moi, je peux arrêter quand que je veux.
Mais le crack, tu peux être consommateur juste une fois par semaine?
Bien, tu peux être... souvent, ça commence par « je consomme une fois », mais par la suite, tu as comme un manque de ça, donc tu vas continuer à en prendre, ça va être comme une béquille au final. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on commence à consommer quelque chose, pour arrêter, même si on a l'impression qu'on a le contrôle, ça peut quand même devenir plus difficile.
Les consommateurs sont que vous voyez avec Sabsa, là, quelle tranche d'âge environ? Est-ce que ça rajeunit?
Je dirais pas nécessairement que ça rajeunit. Ce qui est surprenant, c'est que ça peut être beaucoup de personnes qu'on ne s'imagine pas nécessairement. Ça peut être des personnes qui ont un travail. Là. Ça peut être, oui, il y a des personnes qui sont en situation d'itinérance, mais il y a des personnes qui ont un travail, qui ont une famille. Donc, ça peut vraiment toucher tout le monde, là, la consommation. Là.
Puis, est-ce que c'est plus hommes, femmes qu'on observe dans les derniers temps ou c'est assez mélangé?
C'est assez mélangé. Là. Je pense qu'il y a peut-être une proportion un peu plus grande d'hommes, en effet. Mais il y a vraiment, c'est assez mélangé là, le nombre de les personnes qu'on voit. Là.
Les produits pour neutraliser ça, est-ce qu'ils sont disponibles chez Sabsa?
Eh oui, donc ils sont disponibles, ils sont gratuits, on appelle ça le naloxone. Ouais. C'est disponible en pharmacie. Et dans le fond, quand il y a quelqu'un qui est en surdose, on peut y administrer le naloxone qui est un antidote pour faire en sorte que bon, ça neutralise et ça permet à aux urgences d'arriver et de traiter la personne. C'est un peu le même principe qu'un épipène. Donc, quelqu'un qui a une allergie, on administre l'épipène, ça ne va pas guérir la personne, mais ça permet aux urgences de se déplacer.
Mais là, on devrait-tu avoir ça avec nous tout le temps? C'est-tu quelque chose qu'on devrait traîner dans les saisons des festivals? Moi, mettons, je ne suis pas quelqu'un qui consomme de drogue. Moi, je suis plus une fille de petits verres. Mais est-ce que je devrais aller chercher ça à la pharmacie d'un coup que je vois quelqu'un autour de moi? Ou...
Bien, c'est sûr que comme on encourage là, d'avoir du naloxone. Là, donc, plus il est disponible, plus on est capable là, de prévenir les surdoses.
Bien, tu sais, exemple, au centre-ville de Québec, il y a des commerçants qui ont ça à l'intérieur du commerce, du naloxone.
Intelligence.
Les ambulanciers ont tout ça, les policiers ont tout ça, les travailleurs de rue ont tout ça. C'est sûr et certain que si tu es dans le centre-ville de Québec, Audrey, puis si tu as à travailler là, de l'avoir sur toi, ça nuira certainement.
C'est ça, ça nuit pas, là.
En milieu scolaire, je voyais un article passé aujourd'hui où on parlait des drogues en milieu scolaire, de comment en parler avec les adolescents. Il y a une statistique, bon, c'est pas ici, là, c'est en Ontario, mais on dit que près de 30 % des élèves en Ontario de la 9e à la 11e année déclarent avoir consommé au moins une substance dans la catégorie toute drogue. Là. Et fait qu'on parle de cannabis, mais on parle aussi de cocaïne. C'est quand même jeune quand tu penses. Là, ouais. C'est des enfants aux alentours de comme 13-14 ans. Moi, j'étais loin de ça. Et comment tu abordes ça, justement, avec les jeunes?
Bien, c'est sûr que, comme, tu sais, en tant que parent, il faut quand même briser les tabous, là. Donc, il faut, comme, parler de c'est quoi la consommation, les encourager, bien, de préférence, justement, d'en parler, là, de ne pas garder ça pour eux si jamais ils ont décidé de consommer. Parce que c'est ça, le danger. Le danger, c'est que la personne, elle consomme toute seule. Le danger, c'est que la personne, elle ne sait pas comment consommer de façon responsable. Puis c'est là qu'on est à risque de surdose, parce que il n'y a pas un enseignement qui est fait par rapport à ça. Il n'y a pas la sensibilisation de référer aussi les gens à des organismes comme nous. Puis c'est sûr que comme en brisant les tabous, puis en nommant c'est quoi aussi les dangers là, de la consommation, là, c'est déjà plus efficace d'en parler que de rester dans le tabou et faire comme si de rien n'était parce que la personne, à ce moment-là, elle va s'isoler puis elle va consommer toute seule et c'est là le problème. Là.
Y a-t-il des utilisateurs de drogues dures qui fonctionnent dans la société, qui sont capables d'avoir une job 40 heures par semaine puis que jamais personne puisse s'en douter?
Oui, puis c'est souvent ça que quand il arrive une surdose, c'est là qu'on est surpris. On se dit, pourtant, cette personne-là, il avait un travail, une famille, une maison, puis tout à coup, il y a une surdose, mais souvent, quand que justement la personne, elle ne va pas en parler ouvertement, c'est malheureusement ça qui va faire en sorte que comme elle va s'isoler, puis au final, nous, on n'était pas au courant qu'il consommait. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment ouvrir le dialogue là, avec nos proches, ne pas les laisser consommer toute seule, qu'il y ait les bonnes références de si jamais ils veulent de l'aide, voici les références, va faire tester tes substances.
Mais on dirait que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a quand même 100%. Il y a un jugement là, qui vient avec ça. Là, demain matin, moi, mettons, je suis fonctionnelle, puis tu découvres, Yann, que je prends de la coke tous les samedis, puis que je suis bien accro à ça, c'est parce que c'est difficile à dire, là. C'est difficile à assumer.
Je serais pas le premier surpris.
Non, franchement, je peux sûrement pas prendre ça, je suis juste speedé en partant, c'est pas une bonne idée, là.
Non, c'est vrai, mais c'est juste qu'on a tendance à croire que les gens qui prennent ces drogues dures-là, c'est des gens qui sont dysfonctionnels dans notre société. Mmh. C'est des gens qui, ouais, qui essaient de chasser les mouches à moins 40 là, dans le secteur de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Mais toi, tu me confirmes qu'il y a des gens qui travaillent dans les entreprises à Québec qui peuvent, oui, être utilisateurs de drogue dure. Tu me parlais de la clinique SABSA. Exemple, je m'appelle Paul, puis justement, je suis avocat. Je m'appelle Paul, je suis avocat, puis je vais aller chez SABSA pour faire vérifier ma dope. Est-ce que je suis fiché? Est-ce que vous gardez, non, des traces écrites de mes démarches?
Non, c'est sûr qu'on va prendre pour des statistiques. Là, donc, on veut savoir un peu, on a accueilli combien de personnes et tout.
Ouais.
Mais c'est confidentiel. Là, donc, il n'y a personne qui va le savoir que Paul est venu faire vérifier sa substance. Surtout dans la vérification de substance, là, on prendra juste des données pour des statistiques. Quand tu vas au service de consommation supervisée, on te demande un pseudo. Donc, on ne te demande pas nécessairement ton nom. Là, c'est pour garder la confidentialité. Donc, Paul, tu pourrais décider que tu t'appelles, je ne sais pas, le Boulevard. Ça serait ça, ton pseudo.
Fait non, prenez pas ça.
C'est pas subtil, ça, là.
À chaque fois que tu viendrais, on te demanderait ton pseudo. Donc, on ne le sait pas là, que tu t'appelles Paul. Ça fait en sorte que, justement, tu n'auras pas la crainte de « Oh, mon Dieu, on va m'afficher. » Puis, okay, ils vont le savoir.
Mais on sait que Boulevard est venu tant de fois, mettons.
Oui, c'est ça.
Puis, mettons... Mettons, moi, tu parlais de Paul. Mettons, moi, je suis Sabrina, puis j'ai 16 ans. Puis avec mes trois chums de filles, on décide en fin de semaine que nous autres, on va essayer de la drogue dure. Est-ce qu'on peut se rendre à la clinique de consommation supervisée où il y a un âge minimal? Comment ça fonctionne?
Il y a un âge quand même. Donc, il y a quand même des protocoles pour ça. S'il y a des jeunes qui viennent utiliser nos services, on a un protocole. Donc, c'est pas... c'est pas vraiment notre clientèle cible, là, les jeunes.
OK. C'est quoi le protocole, si je peux te demander?
Ben c'est sûr que ça va au cas par cas, ou veut pas, mais s'il y a un jeune qui vient parce qu'il veut faire vérifier sa substance, dépendamment de la situation, tu sais, on est quand même... on doit quand même prévenir les services de... justement, de protection de l'enfance, là, comment telle personne a des substances et tout, là. Donc, vu qu'on est en collaboration avec le CIUS, ben ça aide, mais... c'est ça, c'est vraiment pas notre clientèle. Tu sais, souvent, okay, quand on va être avec ce tranche d'âge-là, ça va être pour de l'éducation, ça va être, okay, plus comme de la prévention.
Parce que c'est une réalité, t'en as des jeunes qui tombent là-dedans et plus tôt que tard. Okay. Ouais.
Fais-moi rentrer à la clinique SABSA. Bon, je m'appelle Audrey, puis je m'en vais à la clinique SABSA pour faire affaire avec le site d'injection supervisée. Je me présente là.
Oui.
Je choisis le trio, je fais quoi?
Ben, dans le fond...
trio 2!
La clinique puis le service de consommation sont à deux places différentes physiquement.
Sont à quel endroit?
Donc, la clinique est sur la Couronne, là, dans Saint-Roch.
Ouais.
Et le service de consommation, il va être aussi dans Saint-Roch, mais il est un petit peu plus comme caché. Là, je sais pas comment... il est proche du Malestrum, là, vous voyez un petit peu c'est
oui,
où.
Oui.
Donc, il va être proche de là. Il est quand même subtil. Là. Il n'y a pas une grosse affiche qui dit « Venez consommer ici ». Donc, c'est à 1 km environ l'un de l'autre. Là.
OK. Fait que là, moi, je m'en vais à l'endroit où je vais être supervisé pour consommer. Ouais. Je rentre là, ça fonctionne comment?
Tu rentres. Si c'est la première fois que tu rentres, on a des intervenants sur place aussi. Là, donc, ils vont t'accompagner dans le processus. Et on a des infirmières qui vont être également sur place là, pour s'assurer que tout est correct. Donc, tu rentres, on va te demander ton pseudo. C'est sûr, si c'est la première fois que tu viens, on va t'expliquer un petit peu « Ah oh, oui, il faut que tu crées un pseudo, confidentialité et tout ». Donc, tu nous donnes ton pseudo, je vais te demander qu'est-ce que tu consommes aujourd'hui. Tu vas me dire, oh, aujourd'hui, je prends de la cocaïne, puis je vais l'inhaler. Donc, tu nous dis comment que tu penses consommer. On va te mettre dans la salle d'attente si jamais les cubicules sont pleins. Une fois que c'est ton tour, je vais te le dire, oh, Boulevard, c'est ton tour maintenant, tu peux aller dans la salle de consommation. Tu t'installes et si tu as besoin de matériel pour consommer, nous, on va te donner du matériel propre, donc du matériel qui n'a pas été usé. Et une fois que tu as fini de consommer, tu mets ton matériel de façon sécuritaire dans les endroits appropriés pour ça. Donc, ça évite qu'il y ait du matériel utilisé dans la société, là, dans les parcs, dans, ouais, la rue. Et par la suite, un temps de repos. Donc, tu peux aller dans la petite salle de repos où tu peux justement attendre que ton boss finisse et tu peux quitter par la suite. Donc, ça va être ça, la roue de l'usager.
Il y a une salle de repos.
Oui, bien, tu sais, c'est quand même assez petit, là, donc une section de repos.
OK. Ouais. Parce que là, je vois qu'il y a des réactions. Les gens disent, hey, ça existe, ça. Juste vous dire, moi, je suis né au centre-ville de Québec. Là. J'ai grandi là longtemps, puis j'ai habité là jusqu'à 30 ans. OK. Je restais dans un endroit qui était à côté d'un escalier qui faisait la transition entre la Basse-Ville et la Haute-Ville. C'est le secteur juste à côté de l'Aube-Rivière.
Oui. Ouais.
Bon, l'épine écloutier, là, moi, je restais au troisième étage de l'épine écloutier. Puis, dessous les escaliers, t'as comme une genre de falaise, là, un genre, ouais, de talus. Puis, malheureusement, il y a des gens qui allaient se piquer dans les escaliers parce qu'il y avait un endroit pour s'asseoir. Okay?
Ouais.
Qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, après s'être piqués, ils prenaient la seringue puis ils la pitchaient en bas. Qu'est-ce qu'il y avait en bas? C'était un terrain de quelqu'un qui était un locataire puis il y avait des enfants. Fait que moi, là, les cliniques d'injection supervisées, là, je suis pour ça à 250% parce qu'il n'y a pas une seringue qui sort de cette clinique-là qui va se ramasser dans les cours des enfants. Ou ouais. Les enfants.
Ouais, c'est de la prévention. Hein?
Chaque jour, à Québec, il y a des escouades. Je ne sais pas qui s'occupe de ces escouades-là, Imena, mais c'est des escouades qui vont aller faire tous les parcs où les enfants peuvent jouer. Puis ils vont aller chercher justement les résidus de la nuit ou de la soirée d'avant. Ces gens-là sont primordiaux pour notre société. Fait que je comprends qu'il y en a qui peuvent réagir en disant ah, ça existe, ça. On les supervise. Oui, ben moi, là, ayant grandi là, une bonne partie de ma vie, je suis pour ça parce que je veux pas que ce matériel-là pique un enfant puis que malheureusement, cet enfant-là pogne le sida ou une autre maladie. Tu sais.
Est-ce que ces gens-là sont contraints à aller absolument à la fameuse salle de repos ou ils ont le droit de consommer puis de retourner?
Ils ont le droit de consommer et de quitter. Là, donc, c'est sûr que comme ils sont pas obligés d'attendre, mais c'est sûr que si tu veux comme un peu avoir ton buzz en paix, là, pour dire ça comme ça, pas être dehors, bien souvent, les gens ils vont attendre un petit peu.
Qui paye pour ça qu'on nous demande? C'est-à-dire, je vais élaborer la question, là, les IPS que vous avez chez SABSA, les gens qui aident justement ces personnes-là dans la rue, ces services-là sont gratuits, de ce que je comprends?
Bien, tu sais, il y a quand même une nuance à faire dans le sens que, comme tu sais, SABSA, on fait pas que ça, là. Donc, les IPS chez SABSA, ils font vraiment de la clientèle pour toutes sortes de choses. Donc, ça peut être autant des otites, ça peut être des maux de quelque part. Donc, c'est des personnes qui vont souvent être en état de précarité, qui ne sont pas nécessairement des consommateurs. Là, mais qui sont à bas seuil puis qui vont venir consulter les IPS. Donc ça, c'est une chose, ça, c'est une enveloppe, puis c'est vraiment beaucoup bien nos ententes qu'on a. Le service de consommation supervisée, ça, c'est un deuxième truc, c'est une enveloppe complètement différente. Vu que c'est une approche de santé publique, ça a été prouvé là, que c'est une question de santé publique, là, ça fonctionne, ça prévient les surdoses, ça... Donc ça, c'est sûr qu'on a une entente avec le CIUS, la capitale nationale. Donc c'est vraiment la santé publique qui va aller dans tout ce qui est services de consommation supervisée.
Mais les gens qui sont chez SABSA, c'est pas bénévolement, là?
Non, c'est pas bénévolement. Puis, excusez, là, je viens de réaliser, j'ai fait un lapsus, là. Donc, la vanne qui vérifie les substances, c'est la santé publique, pardon. Et le service de consommation supervisée, c'est le service, justement, de dépendance au CIUS. Okay. Donc, c'est une enveloppe, juste à rectifier, là, mais oui, on a plusieurs enveloppes selon plusieurs projets. Mais non, c'est pas des bénévoles. Donc, les IPS qu'on a à SABSA, ça va être des personnes du réseau qui viennent à SABSA. On va avoir des employés aussi qui vont travailler pour nous, qui vont faire beaucoup de choses, là, non seulement de la consommation. Là, donc, ça va être beaucoup accompagner les gens quand ils veulent trouver un logement. Donc, on peut les accompagner un peu là-dedans. On peut aussi donner des produits menstruels à ces personnes-là pour prévenir. Mm-hmm. Donc, on fait beaucoup de choses là, à SABSA. Là. C'est pas seulement de la consommation. Là.
OK. Supposons que j'ai une problématique de santé, je peux me présenter à la clinique SABSA.
Oui.
Ça coûte combien?
C'est gratuit.
C'est toujours gratuit. Je n'ai pas à présenter ma carte d'assurance maladie.
Non, exact.
La façon dont vous financez, bon, t'en as expliqué une partie aussi. On peut faire un don aussi, parce qu'il y a la fondation SABSA qui existe. Puis c'est une super belle fondation, puis vous êtes là pour les bonnes raisons, tu sais.
Oui.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas détenteurs d'une carte d'assurance maladie à Québec?
Oui, il y en a quand même beaucoup plus qu'on en pense. Donc, ça va être des gens qui vont être souvent des affiliés du réseau, soit parce que justement, sont dans la rue, soit parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés quand ils arrivent aux urgences, ou ça peut être aussi des personnes qui sont dans un statut précaire migratoire. Donc, on en voit ça aussi, là, des personnes qui n'ont pas de rame cul. Mm-hmm. Mais ces gens-là,
ça
coûte cher. Ces gens-là, ils ont quand même droit à des soins de santé. Là, donc, ils viennent chez SABSA, puis nous, on va les prendre comme qu'ils viennent. On ne va pas les stigmatiser. On va vraiment avoir une approche qui va être adaptée à cette clientèle-là. Puis, autant que ce soit une otite, que ça peut être l'hiver, on a souvent des engelures. Donc, nous, on est capable là, de soigner ça. Puis, ça évite que cette personne-là aille aux urgences. Puis, ça vient justement comme craint que beaucoup de monde aux urgences.
Engorgé,
donc, c'est une approche qui fonctionne.
Chapeau, c'est drôle. On a un texto qui est entré qui nous dit je travaille justement avec une clientèle là, qui va chez SABSA, l'Interzone. Puis, il y a des gens qui sont contents d'en entendre parler parce que c'est vrai que c'est peu connu, en fait, au quotidien. On n'en parle pas pour le fun d'en parler, là,
non,
de SABSA,
sûr,
par exemple.
Si on n'a pas besoin de nos services, souvent, on n'en entend pas parler, en effet.
C'est ça. Puis est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes affilié au réseau santé et tout ça? Ben, exemple, moi, je sais pas, moi, je vais consulter pour, une maladie transmissible sexuellement.
Oui. Mm.
Bon, est-ce que ça rentre dans le dossier puis ça va être là tout le temps?
On n'est pas affilié au réseau, c'est un partenaire. Donc, c'est sûr que comme on est capable de voir un petit peu dans les IPS, sont capables d'aller voir dans le dossier parce que eux autres, ils travaillent pour le réseau.
Ouais.
Mais oui, c'est des partenaires. Donc, si jamais tu viens consulter, puis on voit que comme, t'es déjà allé consulter pour la même raison la veille, bien, on est capable d'appeler, on est capable de s'informer. Okay. Donc, okay. On n'est pas complètement déconnecté, mais on n'appartient pas au réseau, c'est vraiment nos partenaires.
Puis quand je me fais prescrire, bon, je n'ai plus de carte d'assurance maladie, j'habite dans la rue depuis 2 ans, je me fais prescrire un médicament. Après ça, je prends la prescription, puis oui. Je vais chez Jean Coutu, puis je peux avoir le produit que vous m'avez prescrit?
Oui, c'est ça. Tu peux aller justement à la pharmacie. C'est sûr que comme dans des cas très, très, très exceptionnels où tu as besoin d'un médicament qui n'a pas de générique, que tu n'as pas accès à la RAMQ et tout,
ouais.
C'est sûr qu'on peut avoir un petit fonds là, pour aider ces personnes-là, mais la plupart du temps, là, on peut envoyer la personne.
Vous en faites beaucoup. Je vous félicite. Mmh. Pour plus d'informations, c'est sabsa.ca. Sabsa.ca.
Oui.
C'est bien ça. Salutations à toute l'équipe. Merci beaucoup. Jimena Ruiz Aragon. J'ai eu peur de scraper ton nom.
C'est correct.
Jimena Ruiz Aragon.
C'est super beau en plus.
Directrice générale de SAPSA. Je t'assure de passer une belle fin de journée puis tu remercieras ton équipe de notre part.
Merci beaucoup à vous
Salutations.
Autres.
Salutations. 11h04, vous avez des choses à nous dire. On fait une courte pause. 418-971-1021. 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, les amis, merci de nous en informer. Show. 11h10, minutes, je suis en train de réfléchir à notre discussion avec Jimena Ruiz Aragon, qui est directrice générale de SAPSA. Puis, tu sais, je lui ai dit là, à quel point ces gens-là qui travaillent chez SAPSA sont importants pour notre société, mais aussi pour tous les gens qui habitent dans le quartier Saint-Sauveur, le quartier Saint-Roch, même Hauteville. On a besoin de gens qui s'occupent des gens qui sont maganés.
Et tellement.
Puis, tu sais, Jeff Fortin pourrait en témoigner. Nous autres, on est nés à cet endroit-là, tu sais. Puis des chums de gars qui ont mal viré, là. Je sais pas pour les filles, honnêtement. C'était plus des chums de gars avec qui je me tenais quand j'étais jeune. Tu sais, de les voir aux alentours de la bibliothèque Gabriel-Leroy puis chasser les mouches l'hiver alors qu'il n'y a pas de mouches, tu sais. Ça me fait halluciner à chaque fois. Puis il y a des organismes qui sont là pour les aider. Mais ça... On dirait que je ne suis pas confortable avec ça, moi, personnellement. On dirait qu'on n'en fait pas... Tu sais, eux autres, ils travaillent là-dedans. Ils aident à la société. Ouais. On dirait que nous autres, moi, en tant que gars qui les a côtoyés, là, j'en fais pas assez pour...
Je comprends ce que tu veux dire.
C'est comme un sentiment de « je peux pas en faire assez pour eux parce que j'ai bien mes affaires à gérer ». Ben oui. Ben oui, on se sent coupable.
Mais en même temps, Yann, c'est plate ce que je vais dire. Là. Puis c'est sûr que ça vient d'une fille très privilégiée par la vie, OK? Là. Fait que ramassez-moi
elle a pas de cœur.
Si j'ai... Non, mais...
L'insensible, c'est le temps.
Non! L'insensible, c'est probablement l'affaire qui me colle le moins à la peau. non, mais ces gens-là ont fait des choix.
Oui.
Des choix qui t'appartiennent pas.
Entièrement d'accord.
Parce que, étant de ce coin-là, t'aurais pu mal virer.
Ouais, mais je me suis jamais fait... là, je vais pas être 11h12. Il y a jamais personne qui a abusé de moi. Il y a jamais personne qui m'a battu à répétition. Il y a jamais personne qui m'a intimidé dans mon enfance à répétition. Tu sais, on choisit pas le début de notre histoire. Tu sais, tu peux naître dans un endroit où c'est super, puis finalement, ben, tu rencontres ton père, c'est Giovanni Apollo, un inceste, quelqu'un qui viole sa propre fille. Puis après ça, toi, tu connais pas l'histoire de sa propre fille. Elle sort des médias à 27 ans, puis mais tu sais que de 18 jusqu'à 24, elle était sur le partant sacrément. Tu dis, mais voyons, okay, c'est donc bien rendu drogué. C'est pas son cas, là. T'sais, heureusement, elle a bien tourné.
C'est un portrait que tu fais, là.
Mais c'est un portrait que je fais, mais tu sais, c'est vrai qu'on est responsable de notre histoire, mais tu ne choisis pas où est-ce que tu vas vivre
t'as
et avec
raison.
Qui tu vas vivre.
T'as raison.
Fait que se faire fesser dessus à tous les jours, je suis pas trop sûr que j'aurais bien viré, tu sais. Mais non. Avoir eu des
mais
parents
des
qui étaient incestueux, je suis pas trop sûr que j'aurais bien viré non plus.
Non, écoute, 100%, moi, je suis chanceuse, comme je te dis. Là, je parle à travers mon chapeau parce que là, mon prochain réflexe, c'était de te dire, ben Yann, il y a des ressources pour ces gens-là, tu sais. Il y a des ressources qui peuvent les accompagner. Il y a un moment où tu dois faire le choix que tu veux t'en sortir ou pas aussi.
Parfaitement d'accord. Mais quand ta vie est une éternelle souffrance, puis je la nommerai pas.
Toi.
Mais il y a une fille qui était dans mon entourage quand j'habitais en Beauce, une crise de folle.
Mm-hmm.
Okay? Une crise de folle. Il n'y avait pas moyen de rentrer dans sa bulle sans qu'on se fasse engueuler ou il se passait quelque chose. On respirait, puis on respirait peut-être trop fort.
Mm-hmm.
Puis tout le monde la jugeait, là, incluant moi. Là. Une folle. À un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, on s'est rendu compte parce qu'elle a passé dans l'actualité, qu'elle s'est fait agresser sexuellement toute sa vie.
Oui.
Ça, Tu comprends? Elle, non, elle est devenue comme ça parce qu'il y a des salauds qui sont rentrés dans sa vie puis qui ont abusé d'elle.
Ouais.
Fait que, tu sais, est-ce que c'est le cas de tous les gens qui sont au centre-ville, qui sont maganés? Je ne le sais pas. Mais j'essaie le plus possible, depuis que j'ai été témoin de ces histoires-là, de ne pas juger et de me dire, est-ce qu'on en fait assez pour eux autres? Moi, de savoir que SABSA existe, là, il y a une fondation, je vais peut-être donner, je ne suis pas très riche, là, mais je vais peut-être donner un petit don tantôt pour les remercier d'être passés chez nous. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux autres de plus?
Bien, je pense qu'en partant, tu sais, puis là, je vais te parler de ce que moi, je fais, là, parce que j'ai pas science infuse, puis j'ai pas non plus toutes les ressources par rapport à ça, mais des heures de bénévolat à l'Aubrivière, tu sais. L'année passée, j'ai vraiment passé un bon moment, puis il faudrait vraiment que je recédule un autre moment, mais où on est allé servir des repas, tu sais, on est allé une petite gang, là, ici, là, où on s'est donné le go, puis on est allé un samedi servir le repas d'après-midi, jaser avec ces gens-là. Et il y a la bouchée généreuse, où tu peux aller faire du bénévolat aussi. Tu sais, je pense que de donner de ton temps, puis peut-être des dons monétaires, oui, mais de donner de ton temps, c'est peut-être la chose la plus facile que tu peux faire pour aider, parce que Yann, tu peux pas aller dans la rue demain matin, tu comprends, choisir quelqu'un puis dire, hey, toi, je te repompe ta vie, puis je te remets drette. Un, ça va te vider. Puis de deux, quelle est la garantie que cette personne-là va rester droite? T'sais, ces gens-là ont besoin d'un suivi de professionnel.
Il y a besoin d'un coussin de service. Là,
ben oui.
Quand ils tombent pour les aider. Non, je suis entièrement d'accord avec toi.
Fait que c'est-tu à nous d'en faire plus? Je sais pas. C'est une bonne question.
À chacun sa propre technique. Je pense juste d'arrêter de les juger.
Oui, mais ça, t'as raison. Moi, il y a quelque chose que j'ai entendu, ça fait peut-être 2 ans sur TikTok, là, ces réseaux sociaux en tout cas, qui m'a un peu brisé le cœur. C'est une fille qui s'appelle, son pseudo, c'est Sur le bord de la ligne, me semble, quelque chose comme ça. Okay? Elle, c'est une ancienne itinérante. Puis je l'ai approchée plusieurs fois pour qu'on la reçoive. Puis écoute, je pense que je vais essayer de la relancer. Elle s'appelle Annie. Puis Annie, elle a été dans la rue pendant plusieurs années. OK? Elle a fini par se sortir de la rue et elle a décidé de devenir intervenante dans la rue.
Ça arrive souvent.
Fait qu'elle, maintenant, travaille auprès des personnes en situation d'itinérance ou des personnes en situation critique. Puis à un moment donné, j'ai écouté une vidéo où elle disait, Yann, arrêtez de les traiter comme des moins que rien et ou de les ignorer. Parce que même si c'est des gens qui vivent en marge de la société, qui n'ont pas de sous, qui n'ont pas de moyens, qui sont sur la drogue, tu comprends, bien reste qu'ils ont des goûts quand même. Fait que même si toi, t'es en maudit parce que ton sandwich au poulet, il veut pas, mais peut-être qu'il y a eu le poulet ou peut-être qu'il est allergique au poulet. Ça se peut. Puis elle disait qu'un simple sourire à ces gens-là peut faire la différence dans leur journée parce que souvent, par peur de se faire quêter, par peur de se faire aborder, on va simplement les ignorer. Mmh. Ce qui est complètement inhumain, là. C'est dégueulasse quand tu y penses.
En même temps, tu peux. L'autre jour, je te l'avais dit, j'étais sur Saint-Joseph, puis je me posais des questions par rapport aux gens qui vivent dans le quartier. Ouais. De quelle façon ils vivent et tout
ça. Ils cohabitent.
Puis tu sais, des fois, là, tu vois clairement qu'il y a des gens qui sont en train de tourner en rond, sont un peu mêlés et tout ça. Tu sais, de croiser leur regard, ça va-tu faire en sorte qu'ils vont te sauter dessus?
Bien, je pense pas.
Mais peut-être. C'est légitime pour une femme de marcher sur le trottoir puis de voir 3 gars mêlés qui tournent en rond.
Parce que je plaide coupable. Quand je les vois de loin, je change de trottoir puis j'ignore parce que je veux pas attirer l'attention.
C'est ça. Puis même pour un gars, tu sais, mettons que toi, tu t'en vas juste travailler. Tu sais, moi, ça m'est arrivé dans le vieux Maille-Saint-Roch. Je m'en allais chez Ronald McDonald. Je faisais l'ouverture. Il devait être la fermeture des bars. Fait qu'il devait être à peu près 4 heures du matin, mettons. Puis j'ai croisé 3 gars dans le Maille-Saint-Roch qui voulaient juste taper sur quelqu'un cette journée-là. Puis je m'en allais travailler chez Ronald McDonald. J'étais avec ma petite chemise blanche et bleue.
Ouais.
J'avais... Bon, ris pas de ça, mais j'avais une cravate.
Oh.
Faudrait que je demande
t'avais
à Mario.
Ton name tag.
Mais je me souviens pas si c'était une cravate qui nous mettait dans le temps ou après ça un nœud papillon. Mais en tout cas, il y a eu un temps où on était crissement pas à mode chez Ronald McDonald. Puis j'avais 16-17
ans. Elle était pas brune, la cravate. 16 ans.
Ah non, elle était rouge.
Rouge?
Ah non, c'était dégueulasse.
C'est épouvantable.
Mais bref, les 3 gars m'ont sauté dessus.
Arrête.
Puis heureusement que je cours très vite, là. Mais je suis arrivé chez Ronald McDonald, puis j'ai demandé à la gérante Sophie qui travaillait là à l'époque, j'ai dit, peux-tu me donner une chemise? Puis elle a dit, mais pourquoi t'as pas amené ta chemise? Puis là, regarde ma chemise était pleine de sang.
Arrête.
Mais moi, ça m'a marqué, ça, ce moment-là, là. Tu sais, j'avais 3 hommes entre 25 et 30 ans qui étaient complètement sous. Puis moi, le petit cul de 15-16 ans à peu près, qui s'en allait travailler chez Ronald McDonald, qui se fait attaquer par 3 gars complètement sous.
Hey, c'est épouvantable, ça. Ouais. Tu m'avais jamais compté ça.
Fait que quand je vais sur Saint-Joseph, mon premier réflexe, quand je les regarde, là, j'ai plus peur, tu sais, je suis rendu... Je suis tout un colosse. Mon premier réflexe, quand je les regarde, c'est de regarder si j'ai une bonne distance avec eux autres, mais de jamais croiser leur regard.
Ouais.
Jamais.
Et puis le pire, c'est qu'on ignore pour une raison, c'est par ces peurs-là. Je veux dire, ça vient pas de nulle part. Je trouve ça triste, par exemple, parce que tu as des gens qui mériteraient ce petit sourire-là, tu sais.
Oui, dans les films, c'est ça.
Ouais,
dans les réalités, les filles changent de coin de rue.
Chut, ben, t'as raison. Je peux pas dire que t'as pas raison. Écoute, les deux dernières fois que j'ai voulu essayer d'aider des gens dans la rue, je me suis rendu compte que je me faisais fourrer. Là. Fait que, ça vient que tu te fais une carapace, tu veux plus donner, tu veux plus aider parce que t'as l'impression soit que c'est quelqu'un qui est pas réellement dans la rue, soit que c'est quelqu'un qui voudra rien savoir de ta bouffe, qui va acheter de la drogue avec ton argent.
Mais comment ça tu dis que t'as l'impression que tu t'étais fait avoir?
Ah, mon Dieu, ça m'est arrivé une fois au Portugal. Ben, quand je suis allée au Portugal l'année passée, c'était pas ici, par exemple. J'ai voulu aider quelqu'un dans la rue qui nous suivait beaucoup puis qui disait qu'il avait faim. Puis sa femme et ses enfants, ils étaient maintenant dans la rue. Ça avait donc pas de bon sens, tu comprends. Puis là, un moment donné, j'étais bien mal. Fait que je suis allée chez Subway avec. Puis je suis allée chercher un trio. Puis tout, tu comprends, pour me rendre compte qu'à un moment donné, son chandail a comme levé un peu de son poignet. Puis plein de super beaux bracelets, sa bague de fiançailles, tu comprends. Le gars, il avait pas l'air si mal en point que ça pour réaliser qu'il était pas vraiment dans la rue, finalement.
Puis il n'y avait pas de femme, pas d'enfant.
Puis non, c'est ça. Là. Fait que, il y a eu son lunch. C'est moi la pauvre dans l'histoire. Là. Il y a eu son lunch pareil. Puis ça m'est déjà arrivé une fois à Québec aussi de donner de l'argent. Puis maintenant, je ne donne plus d'argent parce que justement, j'ai peur que ça serve à mauvaise chose. Fait que souvent, je vais inviter à aller chercher à manger. Et je suis allée au Canadien il y a une couple de mois. Puis il y a un monsieur qui avait faim. Bon, on est allé au McDo ensemble. J'essaie de donner de cette façon-là parce que je suis rendu que c'est ça, j'ai des mauvais plis dans ma tête, des mauvais billets, j'ai peur de me faire fourrer.
Moi, j'étais avec la mère de mes gars, on était à New York, c'était notre première date à New York. Puis je rencontre une dame, tu sais, quand t'es nouvellement en couple, tu veux vraiment bien paraître. Fait que je rencontre une dame asiatique, elle doit avoir à peu près 70 ans. Puis elle me parle, mais je comprends rien. Tu sais, je parle anglais, mais elle parle avec un accent très asiatique, ce qui fait en sorte que je comprends rien, puis elle me prend la main. Fait que je donne la main. Puis là, elle me fait signe, tu sais. Fait que là, je dis à la mère de mes gars, ben, ma blonde à l'époque, je dis, on va y aller. Je pense qu'elle a elle est en problématique, tu sais. Puis là, je la suis. Puis elle m'a emmené dans le restaurant où elle travaillait, puis elle m'a assis à une table. Fallait que je mange là.
Ben voyons!
Ça, mon c'était weird! Dieu. Il y en a beaucoup qui font ça, là. Tu sais, tout dépend des villes où tu vas. Ils te prennent par la main, puis ils t'amènent à une place. Toi, tu veux les aider, mais là, finalement... T'es poigné pour manger là. Fait qu'on avait pris un café pour le montant.
On n'avait pas posé de questions, c'est assez.
Exactement! Je te souhaite de passer une belle journée. On t'écoute tantôt avec déjà. Denis à 14h.
Oui, mais Denis n'est pas là.
Il n'est pas là!
Fait que c'est Véro et Max
okay.
qui sont avec moi.
Moi, Pascal CV, s'en vient dans les prochaines minutes. Salut! Il n'y en a pas de plus belle, il n'y en a pas de plus belle.